Vous êtes chef d'entreprise ou conjoint d'une entreprise artisanale et vous êtes non salarié? Savez-vous que vous contribuez chaque année pour bénéficier d'un financement de vos formations? Rendez-vous sur le site fafcea.com ou contactez l'organisation professionnelle représentative de votre métier pour vous aider dans vos démarches.
Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
Oui, enfin, Roten sans flamme, sans Roten. Hein. Oui, je sais, c'est un concept, mais vous verrez, c'est sympa.
Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour.
Il est 18h, bonsoir à tous, effectivement. Roten sans flamme est toujours là. Jérôme est toujours en train de se reposer, de peaufiner sa préparation physique. Il sera de retour lundi. Mais coach Courbis est là pour assurer le coup au mois d'août. Salut, coach.
Salut, les amis, et salut à tous.
Alors, avant de donner le programme, coach, tu voulais avoir une pensée pour ce qui se passe en ce moment en Corse avec les intempéries.
Ben oui, parce que bon, depuis ce matin, je vois certaines images et on sait très bien que cette île ne me laisse pas indifférent. Donc, qu'on sache que personnellement et aussi RMC, puisqu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent depuis la Corse, ben, qu'on partage un petit peu cette catastrophe, des morts, des blessés, une petite de 13 ans qui perd la vie à la suite de
l'arbre qui s'effondre au camping de Sagone.
C'est abominable, donc c'est sûr que ça ne réparera pas, mais qu'on sache quand même qu'on pense beaucoup à tous ces gens.
Bah, tu fais bien de le dire, coach. Parce que évidemment, quand il y a des événements comme ça, bah, nous on essaie de changer les idées aux gens qui nous écoutent, en parlant foot, en parlant de sujets légers, mais c'est important, comme tu l'as fait, de montrer qu'on pense à eux. Alors ce soir, c'est soir de match sur RMC, avec à 19h, eh bien, Tel Aviv, le Maccabi Tel Aviv qui accueillera Nice. C'est le premier, c'est le match aller du barrage de Ligue Europa Conférence, et ce sera en intégralité sur RMC avec Timothée Mémon, avec Maxime Tilliet, nos envoyés spéciaux sur place. Le match donc en intégralité à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport 1, vous pourrez le voir également. Avant match donc à 18h30 avec les compos et ce débat autour de Jim Ratcliffe, le propriétaire d'Ineos, et il sera accusé de ne pas assez considérer l'OGC Nice au moment où on entend qu'il pourrait mettre 1 milliard pour entrer dans le capital de Manchester United. Appelez-nous 32-16 supporters niçois, ce sera tout à l'heure. Julien Cazard sera là évidemment juste avant le coup d'envoi pour son Cazard enchaîné. Mais tout de suite, on passe à l'OM et le cas Arkadiusz Milik.
A rejoint les forces armées le 6 juin 69. Pilote et interprète qualifié.
Jamais la première, c'est la mode classique ici à Marseille. C'est toujours en obligation.
Aucun homme, aucune loi ne peut l'arrêter.
L'ADN de l'Olympique de Marseille, c'est toujours d'être très compétitif dans toute la compétition.
C'est vous qui avez commis une erreur. Et vous pouvez me dire laquelle? Rambo.
Il n'y a pas personne qui est au-dessus de la situation.
Et maintenant, il veut s'en sortir par n'importe quel moyen.
Et surtout, dans la situation actuelle, il y a beaucoup de possibilités.
Alors ce sera peut-être un des feuilletons de la fin de Mercato. Que va faire l'OM avec Arkadiusz Milik? On entend que le Polonais pourrait peut-être quitter l'OM. Son début de saison est compliqué, comme l'était sa saison dernière avec Sampaoli. Alors selon vous, est-ce que Longoria doit tout faire pour vendre Milik? Est-ce que ça doit être une priorité de cette fin de Mercato? Ou au contraire, est-ce qu'il faut le garder, lui laisser le temps de retrouver ses marques? 32-16, appelez-nous pour en débattre. On accueille Florent Germain, notre correspondant à Marseille. Salut Flo.
Salut Jean-Louis, salut les amis, salut à tous.
Salut Flo.
Milik, il en a été question dans la conférence de presse qui s'est terminée il y a quelques minutes?
Assez peu au final, parce que c'est vrai qu'avec Igor Tudor, on avait déjà évoqué le sujet par deux fois lors des dernières conférences de presse, mais on va écouter Valentin Rangier qui en a un petit peu parlé, parce que c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions autour de Arkadiusz Milik. On le résumera peut-être d'une autre manière, Jean-Louis, il n'est pas intransférable.
Oui.
Voilà, c'est un peu la tendance au sein du club. Alors, c'est déjà pas anodin, parce que tu as eu raison de signaler que c'était quand même celui que certains voyaient ou voient encore comme un grand attaquant pour l'OM. Il a mis il a eu une saison compliquée, mais il a quand même mis 20 buts, toutes compétitions confondues, la saison passée. Il en avait mis surtout 10 en 15 matchs la demi-saison où il est arrivé. Voilà, tout le monde criait au génie quand Pablo Longoria a su l'arracher à Naples. Mais bon, les blessures, son niveau de jeu en ce moment, il peine un petit peu à convaincre. Donc oui, la question se pose. Moi, pour être très clair, ce qu'on me dit à l'OM, c'est que l'OM ne cherche pas absolument à le vendre, mais l'OM sera à l'écoute en cas d'offre, et c'est le cas pour quasiment tous les joueurs. Bah, il y en a un qui l'a confirmé. Justement, écoutez Valentin Rongier, quand on lui pose directement la question sur Milik, bah, il reconnaît qu'on ne sait jamais en cas d'offre.
On a besoin de tout le monde. Forcément, c'est un très bon joueur, Arkadiusz. On connaît sa qualité. C'est pas parce qu'il n'a pas marqué sur les deux premiers matchs qu'il a perdu sa qualité. Vous le savez autant que moi. Et puis le président l'a dit, chaque joueur est vendable. Donc c'est pas seulement son cas à lui, c'est le cas de tout le monde.
Voilà, on retiendra quand même cette phrase. Chaque joueur est vendable et c'est la réalité de l'Olympique de Marseille sur cette fin de saison. Alors il y a des joueurs peut-être plus prioritaires que d'autres, mais Igor Tudor, par la suite en conférence de presse, a reconnu qu'il y avait du monde en attaque, sûrement un peu trop de monde et qu'il y aurait probablement un départ. Et il y a des noms comme Milik ou Under qui sont plus souvent cités quand on parle d'une éventuelle sortie, d'un éventuel départ en fin de mercato.
Coach, t'es à la place de Longoria, qu'est-ce que tu fais avec Milik? Est-ce qu'à la moindre offre, tu le vends ou est-ce qu'au contraire, tu fais tout pour le garder?
Non, j'écoute, je fais pas tout pour le garder puisque ça, je ne le fais pour aucun joueur dans la situation que se trouve l'Olympique de Marseille. Mais pour Milik, j'écoute attentivement ce qui peut éventuellement se passer. Je rappelle que pour le moment, je dis bien pour le moment, ben ce qui était prévu ne se passe pas, puisque je pense que cette affaire-là et Flo pourra nous donner plus de précisions. Ça a été un coup qui a été joué dans le sens que ce joueur-là, qui pouvait être très intéressant en cas d'un énorme euro, avec la Pologne et Lewandowski et pouvoir se servir de cet euro pour après récupérer un gros transfert. Malheureusement, l'euro il a passé à l'infirmerie et il a passé devant la télé. Donc pour le moment, ce qu'on comptait faire du côté de Marseille avec Milik, c'est-à-dire récupérer un super joueur, mais super fragile aussi, et pas seulement depuis les six derniers mois. Et comme je le disais, bon, avec toujours mon côté un petit peu taquin, on est dans un endroit où il y avait un certain Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, s'il avait eu un surnom à donner à Milik, ça serait le reveneur. Tu vois, il n'arrête pas de revenir. D'où il est, il revient de blessure, il revient. Mais ça fait 10 ans qu'il revient. Et pour le moment, on espère que ces blessures vont s'arrêter une bonne fois et qu'on puisse avoir un gars qui va être à la réception d'une équipe centreuse, je sais pas si c'est français, mais
on voit l'idée.
On voit quand même ce que je veux dire. Et cette présence devant le but dans les 16 mètres adverses peut être une présence très intéressante.
Et t'es d'accord avec Rongier quand il dit il a pas perdu ses qualités, c'est pas parce que sur deux matchs il a pas marqué qu'il faut l'enterrer, ou est-ce qu'au contraire sur les deux matchs tu ressors un peu inquiet parce que y a pas que les buts, il y a aussi ce qu'il fait dans le jeu.
Si on parle de qualité, essayons sans rentrer dans les détails de donner un pourcentage sur où il en est par rapport à sa forme maximum. Moi je dis 50-60% grand maximum. Donc là, on continue, même si on n'a pas trop le temps, que ce soit dans le football ou que ce soit dans des clubs comme l'Olympique de Marseille, mais il serait quand même très intéressant pour lui et pour l'OM qu'il puisse être titulaire et qu'il puisse, par exemple, ouvrir le score ou marquer un but et un joli but, une réception d'un joli centre, ça ferait plaisir à tout le monde.
Alors, il a un profil qui correspond plus à l'OM justement d'Igor Tudor, parce que coach insiste souvent sur le côté qu'il y aura plus de centres cette saison, qu'on a peut-être plus besoin d'un attaquant de surface. Et c'est vrai que les profils sont très différents. Alexis Sanchez jouera peut-être quelques bouts de match en neuf, mais a priori il n'a pas été recruté pour jouer attaquant de pointe. Bamba Dieng pour le moment est un peu mis de côté, on le sait. Et il y a Luis Suarez qui lui apporte plus de profondeur. Mais le profil Arkadiusz Milik, s'il est amené à partir sans être remplacé, ça pourrait être vraiment un manque pour l'OM dans une saison surtout de Ligue des Champions. Donc ça reste quand même un dossier qui peut être délicat sur cette fin de mercato.
Voyons ce qu'en pense Ali qui nous rejoint au 32-16, supporter de l'OM. Salut Ali.
Salut l'équipe. Ali. Bonsoir coach Courbis.
Salut.
Comment ça va? Vous allez bien, j'espère?
Mais ça va, écoutez, à part ce que j'ai pu dire en début d'émission, c'est pas une journée.
Qui leur arrive tous avec Milik?
C'est pas que Milik que j'étais en train de te parler.
Oui, toi, tu parles de l'accord. Ça, voilà, ouais. Alors,
excusez-moi.
Vas-y sur Milik, Ali.
Mais écoutez, sur Milik, alors moi je suis pas forcément grand fan du joueur, mais à un moment, faut faire un choix en fait. C'est-à-dire que si on veut le vendre, c'est pour le remplacer par qui? Par un Islam Slimani que j'adore, mais qui a 34 ans.
Par Cristiano Ronaldo. T'as pas entendu coach?
J'entendais le coach justement hier suggérer.
Mais bon, tout le monde croit que je décolle, mais je suis sérieux quand même. J'aimerais qu'on pose la question à ma courte en disant tiens. Voilà, dans votre maintenant carrière olympienne, il y a cette possibilité-là. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je suis pas sûr qu'ils disent non.
Ouais, mais le problème, moi, ce que je pense réellement comme étant un vrai souci, c'est très bien. Ronaldo, un petit peu, c'est un peu la seule exception qu'on pourrait, ne pas discuter. Le mec, il est jamais allé à l'infirmerie, il s'est jamais blessé, il a une hygiène irréprochable. Au niveau marketing, il rapporte énormément pour le club. Ok.
Oui, toi, tu penses qu'il n'y aura pas de remplaçant facile à convaincre si Milik part?
Mais en fait, moi, je vois la chose comme suit. On a ramené Alexis Sanchez, qui est déjà, je crois, 34 ans également, ou 33 ans. Donc, il y a Alexis Sanchez qui vient d'arriver, qui est assez âgé. Je pense pas qu'il va faire 30 minutes sur les 90, mais plus 60 minutes sur les 90 minutes. On a un mec comme Arkadiusz Milik qui est habitué à être sur le banc de l'Olympique de Marseille, qui est habitué de planter des buts, qui a un profil atypique particulier qui manque sur le banc. Je pense qu'en fait, il faut avoir un autre discours. C'est-à-dire à Milik, tu restes, mais tu ne seras jamais titulaire, en fait. Ou tu seras titulaire dans certains matchs, mais pas dans tous les matchs. Après, il y a un dernier argument qu'il ne faut pas oublier, c'est la Coupe du Monde. Là, les joueurs veulent pas risquer de quitter leur club pour aller s'essayer à l'Olympique de Marseille 6 mois ou 5 ou 100 jours, comme j'entendais l'autre jour Jean-Louis Tour dire, 100 jours avant la Coupe du Monde. Donc,
tu veux dire par là, ce qu'il a pas réussi à faire et ce que l'OM a pas réussi à faire avec l'Euro, il peut y avoir encore la possibilité de le faire avec la Coupe du Monde dans 3 mois.
Exactement.
Et pourquoi pas?
Après, c'est une réalité. Ce que dit Ali, c'est que lui, Arkadiusz Milik, notamment en vue de cette Coupe du Monde, il est pas trop chaud pour partir. Alors après, ça dépend quel club frappe à la porte. Mais lui, son idée première, c'est de rester à Marseille. Il se sent bien à Marseille. Il a envie d'y jouer la Ligue des Champions dans un stade plein, parce que quand il est arrivé, il y avait encore malheureusement quelques jauges dues au Covid. Donc il a au départ pas forcément connu cette ambiance-là, et ça le fait kiffer, pour le dire clairement. Et puis il y a cette argument, Ali, tu as raison, Coupe du Monde, lui, il a envie d'être dans un club où il commence à avoir ses repères. Et pour lui, la Coupe du Monde, c'est pas rien, évidemment, c'est dans 3 mois, un peu plus. Donc, tu as raison de le signaler. Pour lui, ça compte dans sa réflexion, et c'est pour ça, notamment pour ça, qu'au départ, lui, il veut pas forcément quitter l'OM.
Ali, oui.
Si vous me permettez, juste ajouter un tout petit point. Et j'en profite parce qu'il y a le coach Courbis que je salue. D'ailleurs, on dirait quasiment qu'on est dans l'after, mais pas sur Rotten Sans Flamme.
Mais on appelle ça dans la polyvalence, mon ami.
Franchement, j'espère que vous serez là cette saison sur Rotten Sans Flamme, coach, parce que j'aime beaucoup vos analyses.
Ouais, il fera des passages, oui. Il était là avec Michel Platini l'année dernière. Hein.
J'aime beaucoup taquiner Rotten, surtout quand il n'est pas là. Je peux me permettre juste une dernière chose sur l'Olympique de Marseille, et je pense que c'est vraiment tout un débat qu'il faudrait lancer, si vous me permettez la suggestion, c'est quelle est la politique de ce club? C'est quoi à long terme? Ok, on a ramené un Sanchez, super, il n'a pas joué depuis longtemps. En fait, je trouve que c'est horrible. On est passé du club à jamais les premiers au club qui se contente des miettes de vieilles stars qui reviennent maintenant dans notre championnat. Pour lui, vous comprenez, au niveau marketing, ce sera bien, ou ça va, il a couru 2 matchs, il ne s'est pas blessé. Mais non, il faut justement une politique sportive à long terme. Et c'est là où Longoria, on va voir s'il est fort, c'est pas en tant que recruteur, c'est en tant que dirigeant. Là, Longoria, cette année, on va l'attendre en tant que dirigeant de Marseille, pas en tant que directeur sportif. Voilà, je me permettais juste de dire ça, okay. Et je vous embrasse tous.
Bon, salut Ali, à bientôt. Salut Ali. Flo, il y a autre chose que tu veux mettre en avant sur la conf? Quelque chose qui t'a marqué?
Simplement préciser que Paolo Lopez est de retour, donc c'est toujours bon à savoir. Donc on saura samedi quel est le gardien, on va dire, peut-être numéro 1 de ce début de saison, si Ruben Blanco a suffisamment convaincu Igor Tudor pour le mettre titulaire. Et l'autre info qu'on peut donner, c'est que Igor Tudor confirme qu'il aimerait un défenseur supplémentaire.
Et en ce qui concerne Payet, il démarre le match aussi.
Ça, on ne sait pas. Il a fait une belle langue de bois quand on lui a posé la question sur Payet, en disant « j'ai déjà répondu la semaine dernière, j'ai rien à ajouter ». Nous, on confirme nos infos, comme quoi le staff estime qu'il n'est pas encore au meilleur de sa forme physique, et c'est la raison principale pour laquelle il ne l'a pas titularisé, mais ça peut évoluer, surtout à domicile. Ouais. Voilà, il avait répété que c'était son capitaine, que c'était un joueur important. Valentin Rongier en a parlé, on l'a taquiné un peu sur le fait qu'il veuille pas reprendre le brassard. Lui, il trouve ça tout à fait normal parce que pour lui, c'est un détail et ça reste le capitaine même sans le brassard. Donc voilà, le Capayet fait parler. Igor Tudor a pas voulu en remettre une pièce, voilà, on va pas exclure le fait que à domicile, alors que ça s'est pas très bien passé le week-end dernier, il y ait une possibilité peut-être de voir Payet.
Par contre,
au moins plus longtemps, quoi.
Aucune surprise pour Milik titulaire.
J'en suis pas sûr.
Ah d'accord.
Honnêtement, bon. J'en suis pas sûr.
Mais écoute, on surveillera ça samedi soir.
Je pense que Luis Suarez va peut-être avoir son mot à dire, lui qui a pas joué, qui avait mis un doublé lors de son entrée en jeu, ouais, contre Reims. Donc Milik titulaire, je peux pas l'assurer à 100%.
Flo, en parlant de Payet, tu peux déjà noter qu'il faudrait que tu sois avec nous lundi à 18h parce que Jérôme Roten est à bloc sur le sujet Payet. Donc voilà, comme il est de retour lundi à 18h, il a envie d'en parler, il a plein de choses à dire sur le sujet, des choses qui n'ont pas été dites.
Mon lundi
encore.
Est réservé.
Voilà, donc rendez-vous lundi. Flo, merci, bon week-end.
Ciao les amis, à bientôt.
Salut, et on revient dans une seconde pour les infos mercato du jour. Il y a pas mal de choses qui ont bougé, avec notamment une sortie d'Antoine Comboiré sur le dossier Ludovic Blas à Nantes. Je vous détaille ça dans une seconde. À partir de 18h30, on bascule sur l'avant-match de Maccabi Tel Aviv Nice avec l'accusé du soir, c'est Jim Ratcliffe. Le propriétaire de l'OGC Nice, accusé de ne pas assez considérer son club et d'avoir trop de vues sur d'autres gros clubs de Première Ligue. A tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour.
18h17, c'est Roten sans flamme avec Coach Courbis ce soir. À partir de 19h, on basculera sur le match en intégralité qu'RMC vous propose entre le Maccabi Tel Aviv et Nice, barrage aller de Ligue Europa Conférence. On sera sur place dans 10 minutes pour les compos d'équipe, pour débattre autour de l'attitude de Jim Ratcliffe qui, après avoir voulu racheter Chelsea, veut racheter une partie de Manchester United désormais, tout en gardant Nice. Alors est-ce que Nice va se retrouver délaissé? C'est le débat. 32-16, supporters niçois, on vous donne la parole tout à l'heure. Quelques infos mercato, coach, sur lesquelles tu peux réagir, notamment donc la sortie d'Antoine Comboiré sur le fameux dossier Ludovic Blas. Alors Ludovic Blas, ça fait partie des joueurs qui ont un bon de sortie à Nantes en cas de belle offre. Et ben Valdemar Quita lui a assuré qu'il pourrait quitter le club, sauf que pour l'instant la seule offre concrète qu'est Ludovic Blas, c'est cette offre de Lille. Et Antoine Comboiré en a parlé en disant moi je parle que du volet sportif, dit Comboiré, son entraîneur à Nantes. Pour moi, sportivement, c'est impensable de voir Ludo partir, encore moins à Lille. Tout le monde m'a dit que c'était Lille. Ça, ce n'est pas un projet sportif, à mon avis. Ils ont fini 10e, ils ont fini derrière nous, et surtout, ils ne font pas la Coupe d'Europe. Donc voilà, il faut m'expliquer. Moi, sur le plan sportif, j'ai dit aucun départ. Ça concerne Ludo Blas, mais aussi Alban Lafont ou Moses Simon.
Oui, sur le plan sportif, oui. Mais justement, s'il insiste sur le plan sportif, après, on ne sait pas ce qui se passe sur le plan financier. On ne sait pas ce qui se passe dans la durée du contrat. Donc, si tu veux, et là où je suis un petit peu surpris, c'est que on peut se mettre à la place d'Antoine de ne pas vouloir perdre un de ses meilleurs joueurs, si ce n'est son meilleur joueur. Mais s'il est remplacé par deux très bons joueurs, on fera après un petit peu le bilan et la balance de ce départ et de ses arrivées, parce que si on a un Blas qui n'a plus la tête à Nantes, parce que même si il est sérieux, même s'il se concentre inconsciemment, tu sais très bien que tu es en train de partir. Donc Antoine fasse son boulot, là-dessus on se met à sa place. Mais après, savoir si Nantes va s'affaiblir, on attendra le remplacement de Blas et les deux remplaçants, s'il y a deux joueurs qui remplacent Blas.
Autre info mercato, alors elles sont toutes sur rmcsport.fr, hein. notamment notre nouveau spécialiste du mercato, Fabrice Hawkins, qui a mis plusieurs infos, notamment Oussem Aouar. Alors on a parlé il y a quelques jours d'un accord qui avait été trouvé entre Aouar et Nottingham Forest, le club promu en Première Ligue, mais malgré cet accord, Aouar ne serait pas une priorité. Voilà, il y a d'autres dossiers à faire passer avant d'arriver à Oussem Aouar. Donc voilà, il s'est pas fait encore pour Aouar à Nottingham Forest.
Je sais pas si justement ils ont pas changé d'idée. Ça, il y a quelques bruits que ça serait peut-être ça.
J'ai des infos sur tes amis de Manchester United.
Ça m'intéresse.
On a parlé hier.
Ça fait comme on n'a rien encore. Alors, dis-moi.
Là, visiblement, la porte est fermée avec l'Atlético pour Joao Félix. Hein. Donc voilà, ils ont reçu une fin de non-recevoir. Étonnamment, l'Atlético a gardé son meilleur joueur.
Oh, Joao Félix, il n'a pas voulu aller chez les fous.
Non, 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 c'est ça. Alors en revanche, il y en a un qui pourrait peut-être aller chez les fous, alors qu'on se moquait un peu hier. Casemiro, selon Sky Sport, n'aurait pas fermé la porte et pourrait être intéressé par un transfert à Manchester United.
Ouh, ça sent la prolongation de contrat au Real. Ça pue.
T'as raison. D'autant que Casemiro devrait rencontrer Carlo Ancelotti très bientôt pour parler de son avenir.
Oh tiens, bizarre.
Et le Real qui a laissé filtrer qu'il n'était pas vendeur, sauf si le joueur avait envie de partir. Là, ils étudieraient des offres.
Ah, le joueur, il va faire semblant de réfléchir. Il va dire, mais non, je veux rester, tiens.
Pour toi, c'est que ça. On fait monter les enchères au moment de prolonger le contrat au Real en disant il y a cette offre de Manchester.
Ben là, attends, c'est vrai que bon, j'ai pour habitude de comparer ce qui est comparable. Tu es au Real, bien installé, en Espagne, dans ce grand club, et tu vas Manchester United. Là, vraiment, on va te faire passer non pas une visite médicale sur un plan musculaire, sur les articulations et tout. On va te faire passer une visite médicale au cerveau.
Non, mais tu peux avoir envie d'autre chose, de réussir dans un autre club, c'est beau aussi.
Ah oui.
Raphaël Varane, il a quitté le Real pour Manchester United. Ça a été
d'ailleurs, c'est une super idée.
Bon, en tout cas, on verra si Casemiro, ça se fait à Manchester United. En tout cas, il serait pas fermé. Bon, mais il y a peut-être effectivement une prolongation de contrat derrière ça.
Bah, alors, écoute, si derrière ça, il y a une prolongation de contrat, bah, écoute, les paroles s'en vont, les écrivains, mais nous, là, on a les enregistrements. Tu te rappelleras de ce qu'on a dit dans Rotten sans flamme.
Je t'enverrai un texto. Alors, Cristiano Ronaldo, la nouvelle option, là, à la mode, c'est le Borussia Dortmund. Pour Cristiano Ronaldo.
Ah.
En plus, ça lui plairait bien de découvrir la Bundesliga, un championnat où il n'a jamais joué encore. Équipe offensive en plus, on a bien compris que sa priorité, c'était de gonfler son nombre de buts en Ligue des Champions. Donc, ça remplit pas mal de cases. Donc, Jorge Mendes travaillerait sur cette option-là.
Il
remplacerait Haaland. Mmh. Ce serait une bonne idée pour tout le monde.
Ben écoute, là...
Ça l'éloignerait de Marseille.
S'il reste deux clubs, Borussia Dortmund et l'OM, sur Cristiano, je suis emmerdé.
Je ne sais pas s'il y a l'OM. Hein.
Mais ouais, mais si évidemment ils y sont pas. Non, mais si s'il y avait l'OM, on pense que je plaisante, que je taquine. C'est vrai que ça m'arrive parfois, voire même souvent. Mais là, pour Ronaldo, je suis sérieux. Je pense vraiment que ça serait une très bonne idée pour tout le monde, pour lui et pour l'OM.
Et tu lui vends la qualité de vie entre Marseille et Dortmund.
Mais pas seulement ça. Un stade qui va le regarder, mais pour la fin de sa carrière, comme justement...
Il y a un beau public à Dortmund aussi, il y a un beau stade.
Mais attends, mais quand je vois ce qui s'est passé à Marignane pour l'arrivée de Sanchez, mais moi, je regardais à droite et à gauche, derrière moi, etc., j'ai dit, mais attends, explique-moi, c'est pour Sanchez, pour de bon, là, où il y a quelqu'un, on nous a caché, qui arrive et tout. Mais tu t'imagines s'il arrive au Ronaldo?
Ah oui. Ah bah c'est le feu.
Sanchez, oui, mais c'est très bien, Sanchez, mais de là, c'est vrai qu'on est dans une région où on exagère souvent. Hein. Donc, d'ailleurs, mon grand-père me disait toujours, on n'est pas des menteurs, on exagère. C'est pas tout à fait pareil, alors qu'on veut nous faire passer pour des menteurs. Mais là, il y a pour moi une exagération. Je dis pas qu'on a atteint le ridicule, mais on a un petit peu frisé. Ce qui s'est passé à Marignane pour l'arrivée de Sanchez... Mais j'ai tout de suite regardé sa date de naissance, ce qu'il a fait dernièrement. Ça, j'ai dit, ben oui, pourquoi pas. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais alors, s'il y a ça pour Sanchez, qu'est-ce que ça serait pour Ronaldo? Et c'est pour ça que Ronaldo, ben, je me dis que j'aimerais qu'on me pose la question, et j'insiste là-dessus, à McCourt.
Ah oui, écoute, ben peut-être que Longoria l'a fait. Hein. Peut-être qu'il a amené ce dossier à McCourt.
Voilà. Et peut-être que non.
Et peut-être que non. On va poser la question. On va enquêter Florent Germain sur le coup. Et puis à Lyon, alors il y a plusieurs infos qui circulent sur des intérêts de grands clubs européens, dont Manchester United, pour deux joueurs formés au club, Malo Gusto, et il y aurait d'autres intérêts également pour Loukeba. Lyon a fait savoir qu'il n'y avait pas de bon de sortie pour ces joueurs-là. Donc voilà. Ils feront la saison à Lyon. On a insisté là-dessus. En plus, avec ce qu'on a raconté hier sur l'importance de l'académie
des joueurs. Des contrats de longue durée, tu sais pas quoi.
Ils ont des contrats, je crois pas, hein, mais à Malo Gusto jusqu'en 2024, ce qui n'est pas longue durée.
Ouais.
Si ?
Non, moyen.
Moyenne durée.
Deux saisons.
Ouais, deux saisons, c'est ça. Et je vais regarder pour Loukeba.
Je crois qu'il a prolongé la saison dernière. Celui-là, je sais pas toi, mais je le trouvais énorme.
Ah, il est bon. 2025, Loukeba. Ouais, ben oui, faut faire gaffe quand même, parce que ça passe vite. Exactement. Ouais, Loukeba, très bon, et on le verra demain soir, puisque Lyon joue dès demain contre Troyes à domicile, pour la troisième journée de Ligue 1, qu'on présentera évidemment dans Rotten sans flamme demain soir avec Lionel Charbonnier.
Pour Lyon, ce sera la deuxième.
Ah, ce sera la troisième journée. Mais le deuxième match, pour Lyon. Puisque le match à Lorient a été reporté. Dans une seconde, Nice. Les infos compos d'équipe. Il y a une surprise à un joueur important sur le banc. Et en plus de ça, l'attitude de Jim Ratcliffe, le patron d'Ineos, donc le patron de l'OGC Nice, qui voudrait rentrer dans le capital de Manchester United après avoir voulu s'offrir Chelsea. Est-ce qu'il va à terme délaisser Nice? Selon vous, il est l'accusé du soir. À tout de suite.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour.
18h30 sur RMC, Rotten sans flamme avec Coach Courbis. Ce soir, on est là jusqu'à 20h et on suit à partir de 19h en intégralité. Maccabi Tel Aviv, Nice, barrage aller d'Europa League conférence avec nos envoyés spéciaux qu'on va retrouver dans une seconde. Le match sur RMC en intégralité à la radio et à la télé sur RMC Sport 1. Mais le rendez-vous dans Rotten sans flamme, même sans Jérôme, les rendez-vous sont là. Julien Cazard sera là juste avant 19h et tout de suite c'est l'accusé de 18h30.
RMC Rotten sans flamme.
Faites entrer l'accusé.
Et l'accusé du soir, c'est Jim Ratcliffe, le propriétaire d'Ineos, donc le propriétaire de l'OGC Nice, qui pourrait désormais investir à Manchester United. Alors, nos confrères de Bloomberg, le média anglais, affirment que la famille Glazer, les propriétaires de Manchester United, réfléchiraient à ouvrir leur capital à un nouvel actionnaire minoritaire. Et un porte-parole de Jim Ratcliffe a déclaré, si le club est à vendre, Jim est clairement un acheteur potentiel. Alors, on parle, Julien Laurence disait ça hier soir dans l'after, €1 milliard pour entrer dans le capital de Manchester United. La valeur totale du club est estimée à €6 milliards, hein. Mais les Glazers ne seraient pas vendeurs de l'intégralité de leur part. Il n'empêche quand même qu'après avoir voulu s'acheter Chelsea en mai dernier, ce serait un nouveau gros investissement pour Jim Ratcliffe, indépendant de ce qui se passe à Nice. C'est pour ça que Ratcliffe est accusé ce soir de ne pas suffisamment considérer l'OGC Nice et d'avoir trop facilement la tête ailleurs. On va en parler avec Maxime Tilliette, qui est notre correspondant sur la Côte d'Azur et qui est au Bloomfield Stadium pour Maccabi Tel Aviv Nice tout à l'heure. Salut Maxime.
Salut Jean-Louis, bonsoir coach.
Salut.
Alors
Maxime,
que fait Ratcliffe, ses intérêts pour les grands clubs de Première Ligue? Est-ce que comme à l'époque de Chelsea, ça a du mal à passer à Nice?
Évidemment, on s'interroge, hein, on se pose des questions. Encore une fois, eh bien, à quel étage de la fusée Ineos se trouve le gym? Quand d'ailleurs le club avait été racheté par et avait intégré la galaxie Ineos en 2019, eh bien, c'était Lausanne, hein, qui du coup s'était retrouvé un petit peu rétrogradé, qui d'ailleurs, eh bien, était relégué la saison passée et qui évoluera en deuxième division désormais en Suisse. Alors oui, à Nice, on craint aussi de devenir un club satellite à qui on envoie les indésirables en prêt, à qui on accorde un peu moins d'attention, mais et si on regarde de plus près, Ineos a quand même un peu repris la main cet été avec un investissement un peu plus fort, dans le sens un peu plus présent, avec notamment Dave Brailsford qui est là pour remettre un petit peu d'ordre dans la maison, avec l'après Fournier. C'est lui qui a fait un audit pour gérer un petit peu les tensions et repartir sur des bases un peu plus stables. Il se plaît d'ailleurs à Nice et aimerait bien peut-être poursuivre l'aventure. Il s'implique même dans le mercato, hein, notamment on va parler tout à l'heure d'Aaron Ramsey. Et dans un courrier adressé aux supporters, Jim Ratcliffe avait dit cet été être engagé, je cite, plus que jamais dans le projet, et on veut faire passer un palier au club. Mais quand même, dans le même temps, le propriétaire se positionne deux fois sur des géants anglais, donc forcément ça agace un petit peu, ça interroge.
Merci Maxime pour ces infos. Va falloir pousser un peu la voix, hein, parce qu'il y a une grosse ambiance derrière toi, une grosse sono, ouais, ouais, pour bien vous entendre. On revient vers toi et vers Timothée Mémon pour les compos et les infos éventuelles sur le mercato dans une seconde. Mais coach, qu'est-ce que tu penses donc de ça? Est-ce que ça te gêne d'entendre que Ratcliffe veut se payer un gros club de Première Ligue?
Bah, disons que pour le moment, c'est une participation, c'est un investissement. C'est pas un rachat, mais c'est vrai que si tu es niçois ou supporter niçois et que tu regardes ce qui se passe en Angleterre, avec justement ce personnage qui est anglais, ben tu t'inquiètes un peu et tu te dis, tiens, on est en train de regarder un petit peu le prix des joueurs, du recrutement, etc., etc. Et puis d'un coup, boum, on va partir un milliard là en 24 heures du côté de Manchester. C'est vrai que ça peut choquer et tu peux être inquiet de ce qui va se passer. est-ce qu'il va pouvoir acheter un club aussi énorme comme club et rester en même temps du côté de Nice? Je sais même pas si on a le droit de faire
ça. Propriétaire de deux clubs, c'est compliqué quand même, surtout quand ils sont engagés dans la même compétition européenne.
Et voilà, donc c'est pour ça qu'on peut quand même effectivement être inquiet.
On va voir ce qu'en pense les supporters. Philippe nous rejoint, il a fait le 32-16. Salut Philippe.
Bonsoir messieurs.
Salut Philippe.
Ça t'embête d'entendre ça?
Ah, moi complètement, je vous dis honnêtement, c'est vraiment par rapport au contexte actuel de sur les effets d'annonce du président, comme quoi Nice, ça allait changer, on a enlevé le directeur sportif Fournier pour, comme il disait, changer de braquet, puisqu'ils ont fait appel à un directeur sportif qui vient du vélo. Je pense qu'il aurait dû y rester, puisqu'il n'est pas dans son domaine, et a fortiori, vous voyez très bien que sur le recrutement, je trouve que c'est lamentable. Quand vous faites un effet d'annonce, que vous dites que vous allez jouer, viser les trois premières places du championnat et que vous venez de recruter pour 30 millions d'euros, c'est juste à peine risible. Quand vous voyez des équipes comme Paris, quand le Qatar est arrivé, il y a toute proportion gardée, mais pour parler vraiment d'ambition, quand ils sont arrivés, ils ont pris Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Thiago Motta. Voilà, ils ont vraiment voulu d'entrée asseoir leur dire. Là, à Nice, j'ai l'impression malheureusement que c'est juste de la parole, c'est du vent. Les joueurs que nous visons, ce sont soit des jeunes joueurs ou qui ont un potentiel peut-être futur, donc on appelle ça du trading, ou des noms de joueurs qui ont plus de 32, 33, entre 32 et 35 ans, donc qui n'ont plus une réelle valeur ajoutée sur une équipe de 90 minutes, sur une période de 90 minutes. C'est-à-dire que les joueurs qui sont dans la force de l'âge, qui sont entre 24 et 28 ans et qui vont vous coter entre 20 et 30 millions d'euros, ils sont où à Nice? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas un seul qui a été recruté. C'est-à-dire que vous prenez comme exemple Kalimundo qui est parti à Rennes. Nice en aurait eu, mais autre que besoin d'un joueur comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas alignés dessus. Pas du tout. Ça veut dire que leur recrutement, il s'est orienté vers des jeunes qui ont peut-être du potentiel, mais il y a toujours cette part d'hypothèse, c'est peut-être. Et des anciens pour amener une pseudo-expérience. Mais avec ce mélange-là, vous ne pouvez pas prétendre à être dans les trois premiers du championnat de France et à être un club qui va jouer la Ligue des Champions. Et par contre, M. Ratcliffe, lui, on a très bien compris que Nice, là, dans sa façon de faire au niveau business avec l'État, Nice va être clairement un club de second choix, être un cobaye, un club satellite, vous pouvez l'appeler comme vous voulez.
Bon, après, s'il t'apporte quand même des moyens à un moment que les prédécesseurs n'amenaient pas, sans mettre les moyens des gros clubs anglais, ce sera quand même déjà bien.
Où les moyens?
Ah, pour l'instant, il n'y a pas, c'est sûr.
Non, mais bien, on a suivi. 30 millions d'euros de recrutement, alors que tu es capable de proposer 4,8 milliards pour racheter Chelsea et 1 milliard pour rentrer dans le capital de Manchester, je peux vous assurer que peut-être que les chiffres, ça ne vous parle pas, mais moi, je vois la différence entre 1 milliard et 30 millions d'euros.
Mais je te rejoins pratiquement à 100%. Pourquoi pratiquement à 100%? Je t'explique, là où je te rejoins pas, c'est dans la comparaison. La comparaison avec le Paris Saint-Germain et le Qatar, il faut laisser ça de côté. Il n'y a pas de choses comparables, sauf du côté de Manchester City. Par contre, à 25 km de Nice, tiens Monaco, et se piquer au jeu de faire au moins ce qui se passe du côté de Monaco par rapport aux investissements de joueurs et tout, d'arriver à acheter des joueurs de 30 à 35 millions avec des contrats de 4 ou 5 ans. Là, que Nice puisse rivaliser avec Monaco dans cette région, je pense
ça, c'est envisageable.
Mais je m'attendais à ça.
Ouais, bien sûr.
Et là, je rejoins quand le Niçois aujourd'hui, ben, ça s'aperçoit que du côté de Monaco, on investit beaucoup plus que du côté de Nice. Et là, ça, c'est vrai qu'on peut le regretter quand on est niçois.
Ça coûtera rien en transfert, mais Nice est sur le coup de Nicolas Pépé pour un prêt. Il y a la question du salaire à voir, mais voilà, ça pourrait être l'une des recrues de la fin du mercato.
Là, déjà, ça serait bien. Ça.
Philippe, reste avec nous parce qu'on va donner des compos pour le match de tout à l'heure. C'est dans moins d'une demi-heure maintenant, dans 22 minutes. Maccabi Tel Aviv, OGC Nice, Maxime Tignette est toujours avec nous, vous entendez l'ambiance. Timothée Mémon nous rejoint également. Salut Timothée.
Salut à tous.
Salut Timothée.
Quelle ambiance.
Ouais, très très belle ambiance. Là, pour le moment, la tribune qui est derrière la cage sur laquelle s'entraînent les joueurs du Maccabi, composés des ultra fanatiques du Maccabi et de la Gate 11, sont en train de donner de la voix. Et c'est assez surprenant parce que dès une bonne demi-heure avant le début de la rencontre, et là, c'est en train de monter à 20 minutes du début de ce match, il y a énormément d'ambiance. C'est très très chaud. Le reste du stade sera plein, mais on peut compter sur ce COP pour vraiment donner de la voix. C'est déjà parti très très fort. Chaud d'ambiance du Moyen-Orient.
Alors allons-y sur les compos, la compo niçoise avec une surprise. Hein.
Une petite surprise, oui, en effet même une grosse surprise selon certains, c'est l'absence d'Amin Gouiri dans le 11 de départ. C'est Aaron Ramsey qui va disputer sa première, qui va s'offrir une première titularisation sous les couleurs du gym. Le 11 avec dans les buts Kasper Schmeichel, la défense de gauche à droite, Bar, Dante, Todibo et Youssef Attal. Devant à la récupération Kefren Thuram, Mario Lemina, une ligne de 3 milieux offensifs avec Rare Sili à gauche, Aaron Ramsey en numéro 10, Calvin Stengs à droite. Et puis dans l'axe de l'attaque, Andy Delors qui va disputer sa première rencontre européenne.
On est en 4-2-3-1 là donc.
C'est ça.
Avec Ramsey dans l'attaque. Ouais, mais bon, je pense que effectivement Gouiri qui est pour moi un des trois meilleurs joueurs de cet effectif de Nice. Fini. Mais non, mais là, il va tout simplement rentrer dans la deuxième partie du match. Donc c'est
oui, après, c'est un des trois meilleurs joueurs de l'équipe de Nice. Il est sur le banc, c'est normal.
Non, mais là, n'oublions pas quand même qu'il y a un match retour. Donc c'est pas non plus un match où tu peux quand même avoir une catastrophe. Il y a encore un match retour. Et ensuite, il y a les cinq changements et le calendrier. Oui. Donc là, tu. Demain c'est déjà vendredi, tu joues dimanche.
Ouais, Maxime, tu veux ajouter un mot ?
Oui, Amin Gouiri qui n'est pas non plus dans une période très prolifique. Son dernier but avec le gym, c'était en Coupe de France en mars dernier, la demi-finale à l'Allianz face à Versailles. Okay. Donc ça fait un petit moment qu'il attend de retrouver le chemin défilé avec le gym.
On remercie Philippe qui était au 32-16. On revient dans une seconde, c'est la tradition dans Rotten sans flamme. Julien Cazard, le meilleur du Cazard enchaîné. Et dans une seconde, le coup d'envoi dans 20 minutes. Le coup d'envoi de Maccabi Tel Aviv Nice en intégralité sur RMC. À tout de suite.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour.
18h43, c'est Rotten sans flamme avec Coach Courbis. On est à 16 minutes du coup d'envoi de Maccabi Tel Aviv, Nice. Mais c'est la tradition dans Rotten sans flamme. Juste avant 19h, c'est le moment de Julien Cazard.
RMC, Rotten sans flamme.
Le Cazard enchaîné.
Nous reviendrons sur un truc très étonnant que nous avons vécu lors du podcast du PSG. RMC, oui. Podcast PSG, vous l'avez vu ou pas?
Non.
Vous écoutez un peu ce podcast?
L'After PSG, non.
L'After PSG, c'est génial. Alors c'est un podcast, avec évidemment. Bah, forcément, comme c'est pour les vrais Parisiens, c'est avec Roland Courbis. Non mais c'est vrai que Roland Courbis, rien que son accent, on a l'impression d'entendre un mélange de Maurice Chevalier et d'Edith Piaf. C'est un petit Titi de Montmartre. Alors bizarrement, pour la compagnie, ils ont mis Jimmy Brown, alors que Ben Gousse et Patrick Bosso, ça me paraissait logique. Mais c'est pas ça le sujet. Donc Roland, il fait le podcast du PSG. Et là, il s'est passé un phénomène assez étrange, alors qu'il était évoqué les sifflets sur Messi.
Je vais me rester avocat de Messi jusqu'à la fin, parce que Messi, je le dis et je le répète, je vais pas changer, on dit tourner la veste, je vais pas m'enlever la veste, encore c'est pas une veste d'un avocat, ce qu'on dit, c'est
la robe de l'avocat.
Non, là, vous êtes en train de dire que Roland Courbis, il sait pas comment on appelle la robe de l'avocat. Eh ben. Alors moi, tu me dis, il sait pas ce qu'on appelle. Alors, les joueuses de harpe, ça s'appelle comment leur toge? Ok. C'est quoi déjà le nom de la blouse des métallurgistes? Ok. Mais les avocats? Je sais pas.
Mais pourquoi il serait censé savoir?
Ah, je sais pas. Merci. Merci Roland, on t'aime, on t'embrasse. J'en ai vu des escrocs. Voilà, alors, comment on dit pour encore. Un avocat là, comment ça s'appelle la maison là où, avec les barreaux?
La prison.
Voilà.
On le remercie encore parce que jeudi il a été excellent avec.
Ça s'appelle comment le truc autour du pied qui fait bip quand tu t'éloignes trop. Nous reviendrons bien entendu sur le fait marquant de cette semaine internationale, l'élimination de l'Italie.
Arrivé comme Rocco sur Svetlana, mais tu t'es fait prendre comme la cicciolina. C'est comme une femme, la Macédoine, il faut tirer mes vis entre les cannes. Oh, adieu la Coupe du Monde, arrivederci. On la mangera à la télé comme en Russie, un seul tir cadré.
Mamma mia!
a suffi pour nous dégager. La chatte à Dédé, on l'a pas. Le talent, ça suffit pas. Le triple en tocar et il lui sort une frappe de bâtard. La chatte à Dédé, on l'a pas. On a même pas celle de Duprat. Même pas un beau diger. Ni même le portugais d'air. La chatte à Dédé, on l'a pas. On a des pénoms mais on l'aimait pas. Lui, il a un titi qui marque un but, mais c'est en demi. La chatte à Dédé, on l'a pas. Nous, on a celle des Zouma, mais on la frappera pas. Immobilier y arrivera pas. Mais c'est pas vrai ça, mais comment tu peux avoir tant de chattes? Pourquoi on l'a pas la chatte nous? On l'a jamais nous la chatte.
Non.
C'est toujours la DH et lui il a la chatte.
Bravo Julien. Bravo Julien.
Bravo.
Le casar enchaîné.
Mais revenons à vous Michel.
On l'embrasse.
Michel, vous n'êtes... Michel, vous êtes pas né un 24 mars mais un 21 juin. Tout un symbole, c'est l'anniversaire de l'été, l'anniversaire de la musique, avec la fête de la musique. Le 21 juin, c'est pas un jour comme les autres. On se souvient de ce 21 juin 86, où pour fêter vos 31 ans, vous décidez, allez, on va déconner, je vais balancer mon tir au but sur le périph' de Guadalajara. Allez, on s'en branle. Et c'est ça, Michel, c'est la fête. Mais c'est aussi un autre anniversaire qui m'intéresse, celui de vos 27 ans. Ce jour-là, le 21 juin, vous rencontrez le Koweït. À Valladolid. Et oui, ce jour-là, vous avez une belle surprise pour votre anniversaire. Un émir du Koweït va entrer sur le terrain pour faire annuler le but. Ah, la belle époque! C'était l'époque où les rois du pétrole, ils en avaient dans le calbut. Ils osaient entrer sur le terrain pour influencer les arbitres. Lors de la remontada, il était où, Altani? Il pouvait pas descendre sur la pelouse, lui, avec son turban, avec sa moustache. Il pouvait pas le faire. Non, mais non, on aurait bien aimé qu'il le fasse, hein, comme le chèque du Koweït à Valladolid. Sauf que bon, bah, le Barça.
Et en face, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid.
Eh non, Michel! C'est fini cette époque, le 21 juin, c'est le jour aussi où les plus beaux intellectuels sont nés. Françoise Sagan, Jean-Paul Sartre, Guy Lux. Merci, merci pour votre carrière. Votre vie est un roman. La première fois, votre vie où tout le monde se souvient, votre première femme de votre vie, je veux dire, c'est appelée Nancy. Nancy Lorraine. Ah, Nancy Lorraine, elle était belle, elle était jeune. Alors, on est d'accord, hein, vous avez, parce que l'autre Messine, vous avez mis un râteau. On vous a mis un râteau parce que vous n'arrivez pas à souffler dans un tuyau. Nancy, c'est à Nancy que vous explosez dans les années 70. Les années 70, les années Led Zeppelin, Pink Floyd, AC/DC. Et donc, forcément, l'hymne du club en 77, il est dans son époque.
La SNL, la football de Nancy.
Ça fait rêver.
On est ouais.
C'est pas en 1930, hein. C'est bien en 77 qu'il y avait cet hymne à Nancy. Ah, jeune, dynamique. Bon, forcément, ils sont mignons, les gars de la Meurthe-et-Moselle, mais manger de la quiche Lorraine, du vol au vent, en se carriant à moins 15 degrés, c'est marrant 5 minutes, vous décidez de partir pour le grand club de l'époque. L'AS Saint-Etienne. Alors on va pas se mentir, t'as pas de chat, hein, Michel. Hein, parce que c'est vrai que t'as pourrait pu tomber sur une époque où c'est Paris, Bordeaux, Monaco, Marseille. Non, toi c'est Saint-Etienne, la grande équipe. Il fait plus froid encore. Hein, le bar le plus branché, c'est le café des Poteaux Carrés en face de l'usine Manifrance. C'est l'enfer. Alors bon, c'est un mauvais moment à passer, mais c'est pas grave. Hein, forcément, à Saint-Etienne, hein, t'as pas la Fashion Week, t'as pas le Grand Prix de Formule 1, mais t'as pas non plus les soirées casino.
Dis-donc, comment ça, on n'a pas de casino à Saint-Etienne? À Saint-Etienne, on a que ça, les géants casino. On a plein de casinos, des petits, des grands. Hein? C'est la ville du casino, Saint-Etienne. Hein? C'est même le sponsor du Cup depuis au moins 100 ans. Hein? Dis-donc.
Oui, merci Lucien. Vous marquez l'histoire avec un titre de champion en 82. En 81, je veux dire, et vous partez, hein, et puis vous inscrivez 82 buts magnifiques. Selon ras la casquette des ouvriers et de la grisaille, vous décidez de rejoindre un championnat de stars à l'époque, le calcio. Eh, le calcio d'Italie, vos racines, la gastronomie, les plages, la Toscane, la Rome, Abruzzo, la Sicile, le vin, la musique, et oui, le sang chaud, les femmes, la Renaissance. Alors non, c'est Turin, le Piémont, le nord de l'Italie, à la hauteur de Grenoble, l'endroit le moins chaud, le moins chaleureux du pays. Turin, ville industrielle, dont l'économie est essentiellement axée sur la fabrique d'automobiles des usines Fiat. Ça fait rêver, oui. L'icône, c'est pas Léonard de Vinci, c'est pas Michel-Ange ni Botticelli, c'est Luigi Lavazza. Franchement, je voudrais pas dire, mais Michel, tu cherchais les ennuis. Hein, je sais pas comment tu faisais, mais tu... T'es pas tombé en dépression, bravo. Alors on t'imagine en train de boire ton verre de fruité au comptoir du bar de
de la Cinquecento face à l'usine, avec le bruit des six circulaires qui découpent les nouvelles portes de la Fiat Panda. Pendant ce temps-là, Maradona, eh bien, lui, il est au soleil, à Naples, dans une villa avec piscine, en train de siffler un rail de coke et sur les fesses de Miss Italie, avec un mojito dans chaque main. Eh oui, chacun son destin, mais c'est pas grave, Michel. T'as tes trois ballons d'or, c'est déjà pas mal.
Le casar enchaîné.
Nous aborderons ce scandale que dévoilions hier sur les salaires des joueurs de foot. Et après une enquête poussée et documentée à l'aide d'une calculatrice Texas Instruments, nous avons estimé le prix des joueurs de Ligue 1. Laborde, 154 000 euros le but. Terrier, 136 000 euros le but. Ben Yedder, 458 000 euros le but. Et Lionel Messi, 15 millions d'euros net le but. 15 millions d'euros net le but.
On fait tourner les serviettes.
Mais tu m'étonnes que le mec qui fête ses buts. Moi je t'avoue que j'ai fêté les buts de Lionel Messi. Hein.
Et les serviettes.
Merci bon pour la SACEM.
Oh non.
En revanche, quand on voit les salaires de Ligue 2, on se dit que c'est n'importe quoi. Et moi, je pense à tous ces anciens entraîneurs, des éducateurs dans les années 80-90 qui nous faisaient rêver avec peu de moyens, avec des petites tactiques sympas à la française. Les Jackie Duguay-Pérou, les Michel le millénaire, on les a tous connus.
C'est vrai.
Et j'ai envie de leur dire merci. Merci, Jackie et Michel.
Et je sais, c'est minable. Je le sais que c'est minable.
Je le sais, on tombe dans le graveleux. Jacques et Michel, je vais trop loin.
Heureusement, je vais te dire, dans cette radio, il y a des gens qui sauvent l'honneur.
Ouais.
Oui, tu sais, il y a Pauline de Malherbe. Tu vois, ouais. Pauline de Malherbe, elle, et ben, l'autre jour, elle aurait pu être tentée
parce
qu'elle a eu eux comme auditeurs.
Bonjour Jackie.
Non, bonjour Michel.
Alors là, tu te dis, oh, oh là là, c'est dommage qu'on les ait pas eus, nous.
Ben non.
Nous, si on les avait eus.
Elle a rebondi quand même.
Oui, mais elle les a pas remerciés comme on l'aurait fait, nous. Enfin, elle aurait pas fait. Elle aurait pas fait. On peut écouter quand même.
Il est 8h26. Merci, Jackie et Michel.
Elle l'a fait, elle l'a fait.
Non,
elle
pas toi.
Bravo, Pauline.
Pas toi, Pauline.
Le casar enchaîné.
Et rendez-vous lundi pour le retour de Julien Casar en direct pour ses casars enchaînés. On est à 7 minutes du coup d'envoi de Maccabi Tel Aviv Nice sur RMC. Ce sera en intégralité. Évidemment, vous ne raterez rien de cette rencontre. On va donc parier sur ce match.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Johan Bredov. Salut Johan.
Salut messieurs, salut à tous.
Allons-y pour les cotes.
Alors, c'est Nice qui est favorite de cette rencontre. Même à l'extérieur, c'est 2,40 la victoire des Aiglons, c'est 3,25 le nul. Et 2,95 celle du Maccabi Tel Aviv. À noter que pour la qualification, pour la phase de groupe de la Ligue Europa Conférence, c'est Nice qui est largement favori. 1,30 seulement la qualification des Aiglons. Donc, troisième du championnat israélien quand même, le Maccabi Tel Aviv, qui a passé deux tours de qualif cet été, tandis que Nice débute timide en Ligue 1, deux matchs nuls un partout à Toulouse et face à Strasbourg. Bon, moi, je me couvrirais avec Nice qui ne perd pas les deux équipes qui marquent, c'est 2,35. Le 1 partout, tiens, la passe de 3 à 5,50, ça aussi, ça peut être un pari à tenter. Et sinon, j'aime bien aussi le but de Delors, tiens, sans mettre de résultat forcément, pour tripler la mise, je trouve ça très intéressant.
Coach. Je vois Nice gagner avec début dans ce match, c'est-à-dire plus de deux et demi, au moins trois buts dans ce match-là. Je vois un 2-1 ou un 3-0. Et après, je m'amuse avec le 2-1, 3-1, 4-1.
Tiens, 2,40 la victoire de Nice, 4,70 pardon si tu vois les deux équipes marquées. Le 2-1, 3-1, 4-1 en faveur des Aiglons, c'est 5,80. Et Nice est au moins trois buts dans la rencontre, comme ça j'ai tout fait. C'est 3,85. De très belles cotes, tu tentes de gros coups là, coach.
Bah ça, écoute, magnifique.
Ça, c'est un coach qu'on aime, celui qui régale, celui qui envoie des grosses cotes. Ouais. Pas des petits 1N, les deux marques à 1,25 et tout là, voilà. Là,
ouais, ben oui, enfin.
Ça, c'est mon coach Courbis.
Oh, yeah, yeah.
Allez, merci Johan, rmcsport.fr pour les conseils de la Dream Team.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Les Niçois vont-ils résister à cette ambiance de folie? On est sur place sur RMC Maccabi Tel Aviv Nice. Coup d'envoi dans 5 minutes de ce match avec nos envoyés spéciaux. Les Niçois qui débutent peut-être une épopée européenne. C'est sur RMC que ça se passe. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.